la jeunesse
et l'engagement.
Une émission avec la Ligue de l'Enseignement. Pour s'interroger sur l'investissement des jeunes dans les associations à l'heure actuelle.
Allez, bienvenue dans une heure spéciale sur votre radio préférée au congrès de la Ligue de l'Enseignement qui se tient au couvent des Jacobins à Rennes. Laurent Montauvert pour vous accompagner durant 7 heures avec à mes côtés Cléo Arzoul, étudiante à l'Institut Européen de Journalisme à Rennes. Bonjour Cléo.
Bonjour Laurent.
C'est Camille Voléon qui viendra avec nous tout à l'heure poser des questions à nos invités. C'est une étudiante en journalisme à l'École supérieure de journalisme de Montpellier. Puis Carla Cosquet, deuxième année à Sciences Po, en stage avec nous actuellement. Alors, on parle dans cette émission d'engagement, du vrai, celui des jeunes, celui qui change la vie, le service civique, bénévolat, militantisme ou prise de responsabilité. Les formes sont multiples, les énergies aussi. Alors, comment les jeunes trouvent leur place dans les assos? Sont-elles prêtes à s'ouvrir, à se réinventer pour mieux répondre aux attentes et besoins? On tentera de répondre à ces problématiques avec nos invités. Zoom aussi dans cette émission sur un mot qui fait sérieux, mais qui devient concret, c'est la gouvernance avec la masterclass qu'organise la Ligue de l'Enseignement interassociative. Des jeunes prennent les manettes et apprennent à décider. Allez, on débute sur le service civique, cette mission qui mêle action, apprentissage et solidarité. Alors, prête à vous engager, on en parle avec celles et ceux qui la vivent.
La jeunesse
et l'engagement.
Une émission avec la Ligue de l'Enseignement. Pour s'interroger sur l'investissement des jeunes dans les associations à l'heure actuelle.
Alors, le service civique, c'est une mission d'intérêt général de 6 à 12 mois, indemnisée sans condition de diplôme. Des milliers de jeunes s'engagent chaque année dans l'éducation, l'environnement, la solidarité ou le sport. Si vous avez envie d'en savoir plus, un site internet, c'est le service-civique.gouv.fr. Et puis, si vous en voulez en savoir encore plus, bah, vous nous restez avec nous, vous nous écoutez. Et on a avec nous Suzanne Desplans. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous coordonnez l'accès au service civique pour les jeunes à la Ligue de l'Enseignement. À côté de vous, Maëlys Rochard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que vous êtes très, très loin du micro.
Désolé du direct. Bonjour à tous.
Et à côté de vous, je laissais présenter votre acolyte. Bonjour.
Bonjour.
J'ai pas votre prénom, c'est pour ça que
C'est Charles, je m'appelle Charles.
Désolé. Bonjour Charles, désolé. Alors, au congrès, vous présentez une exposition qui s'appelle « À hauteur d'engagement » et qui fait le portrait de 10 jeunes engagés cette année. Maëlys, d'ailleurs, vous avez interviewé des jeunes au sujet de l'engagement, on en reparlera dans quelques minutes. Un chiffre, j'ai envie de partager avec vous quatre, c'est près de 18 000 volontaires en service civique au niveau national. C'est un contingent très important pour des structures associatives diverses qui en accueillent un peu partout dans le territoire hexagonal, mais aussi ultramarin. Alors, au niveau de la Ligue de l'Enseignement, pourquoi doit-on considérer le service civique comme un engagement, Suzanne ?
Alors, le service civique, c'est un engagement citoyen. Ça permet à chaque jeune, finalement, de pouvoir donner de son temps au sein d'une association, d'une collectivité, par exemple, au sein de la Ligue de l'Enseignement, ou auprès de notre réseau associatif, qui, comme vous le disiez, est présent partout en métropole et dans les DROMCOM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes thématiques, il y en a une dizaine au total, et donc ça permet à chaque jeune de trouver une mission qui l'intéresse, que ce soit dans le sport, que ce soit auprès d'enfants, que ce soit auprès d'un public en situation de handicap. Enfin, voilà, il y a différentes thématiques qui font que en fait chaque jeune trouve forcément une mission qui l'intéresse.
Alors, trouver des missions, ça passe forcément, Cléo, par les réseaux sociaux.
Oui, exactement. Et est-ce que vous pensez que le service civique est assez visible sur les réseaux sociaux? On en entend beaucoup parler, de plus en plus en tout cas. Mais est-ce qu'on en entend assez parler?
On en entend plus parler qu'avant. Donc, je dirais que c'est déjà super. L'agence du service civique est présente aussi, par exemple, sur Instagram, depuis peu sur TikTok. Chaque fédération de la Ligue de l'Enseignement a aussi, enfin pour beaucoup, elles ont aussi un compte Instagram. Elles ont un Facebook, donc je pense qu'on en parle beaucoup, on en parle plus, certainement pas encore assez, parce que souvent je rencontre des jeunes qui ne savent pas encore ce que c'est le service civique, mais voilà, on est là pour ça, et on compte aussi sur les jeunes pour parler de leur expérience, c'est-à-dire que ceux qui ont réalisé une mission de service civique, l'idée c'est qu'ils puissent partager autour d'eux, parler de leur expérience, de ce qu'ils ont pu apprendre aussi en mission de service civique, parce qu'on donne de son temps, mais en même temps on apprend, donc c'est ce qui est super aussi. C'est qu'on gagne en compétences et surtout on gagne en confiance.
Alors Suzanne Desplanques, c'est pour les jeunes entre 16 et 25 ans et les personnes en situation de handicap jusqu'à 30 ans.
C'est ça.
Au niveau du CV, est-ce qu'il y a des choses particulières où tout le monde peut participer?
La motivation. Il y a beaucoup d'offres de services civiques qui sont disponibles sur le site servicecivique.gouv. Mais je dirais que ce qui va changer d'une candidature à une autre, ça va être la motivation et surtout le fait de s'approprier la mission. C'est le fait de pouvoir y mettre un peu de soi dans sa mission finalement. Qu'est-ce que on peut apporter à l'asso? Voilà, si par exemple vous êtes fan de dessin ou si vous faites de la musique, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez partager ça pendant votre mission avec le public que vous rencontrez. Donc voilà, je dirais que c'est plus ces petites choses-là et voilà, la motivation. Pas besoin d'avoir le permis, pas besoin d'avoir un bac, garçon-fille, tout le monde a la possibilité de faire un service civique.
Alors, Ligue de l'enseignement pour un jeune de 16 ans, c'est quoi les missions? Parce que ça peut paraître abstrait, il peut penser à l'école, ça peut être un frein peut-être même.
Oui, alors ça peut... Non, en fait, non, je suis pas d'accord avec vous, je dis oui, mais non. Non, c'est pas... ça fait pas du tout penser à l'école, en fait. Dites-vous que quand vous faites une mission de service civique, vous êtes intégré à l'équipe dans l'association dans laquelle vous faites votre mission. Par exemple, si vous faites une mission de service civique auprès d'un club sportif qui est à côté de chez vous, en fait, vous allez être intégré à l'équipe, c'est-à-dire que vous allez participer au projet associatif de la structure. Vous allez être avec les adhérents, avec les bénévoles. Donc, du coup, déjà, vous allez apprendre de tout ce public-là. Vous allez créer votre réseau aussi. C'est un bon plan aussi pour commencer à créer son réseau parce que ça, on sait que c'est assez essentiel aussi pour la suite. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des choses et de participer, d'être vraiment acteur de sa mission. La mission, elle va être, il va y avoir une annonce sur le site servicecivique.gouv, mais en fait, il faut se l'approprier et la faire vivre.
Donc, un petit exemple, les dernières que vous avez publiées d'ailleurs, ça serait lesquelles?
Bah, les dernières qu'on a pu publier. Alors, moi, j'en publie pas parce que je suis au centre confédéral, je suis désolée. Je suis pas en fédération, mais il y a dans toutes les thématiques. Ça peut être dans un théâtre, par exemple. Vous pouvez participer aussi au sein d'une mairie. Vous pouvez aussi être dans un CCS et du coup, par exemple, faire des animations pour différents publics. Ça peut être créer des animations pour les enfants, créer des ateliers parents-enfants. Voilà, toutes les idées sont les bienvenues.
Avant d'illustrer vos propos avec Maëlys et Charles, j'ai retenu votre prénom, je voulais revenir un petit peu sur la définition de la Ligue de l'enseignement, parce que tout le monde ne connaît pas. Je vous ai pas posé la première question, mais c'est vrai que voilà, c'est un terme assez générique pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
En quelques mots, comme je le présente à mes amis, parce qu'effectivement, je trouve que c'est pas simple de définir ce que fait la Ligue, parce qu'on fait beaucoup de choses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un gros réseau avec donc qui est présent dans toute la France, comme on l'a dit tout à l'heure. On a plus de 20 000 associations qui font partie de la Ligue de l'enseignement. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à tous d'accéder à la culture, d'accéder au sport, d'accéder aux loisirs, d'accéder aux vacances. Et on part du fait que, en fait, on apprend tous les uns des autres. Il n'y a pas un sachant, un apprenant. C'est-à-dire qu'un volontaire en service civique va autant apprendre pendant sa mission que le tuteur qui va l'accompagner tout au long de la mission va aussi apprendre du volontaire parce qu'il va venir avec ses idées, avec un regard neuf, avec son expérience, et qu'on a tous de l'expérience, et pas forcément à l'école. C'est une expérience qu'on acquiert aussi par des compétences qu'on a, par exemple, être fort sur tout ce qui est numérique, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qu'on rencontre qui ont certaines compétences en numérique, et ça, par exemple, ça peut aider une asso. Enfin, voilà, c'est vraiment un échange.
Et donc là, vous parliez des compétences acquises à l'école. Est-ce que justement, à l'école, on en entend assez parler du service civique, on peut faire un service civique post-bac, mais est-ce que c'est des solutions qui sont proposées en dehors de Parcoursup et des études en général?
On a des fédérations qui ont des actions justement d'aller dans les écoles, de sensibiliser, d'informer. Donc ça se fait surtout sur tout le territoire.
Alors Maëlys et Charles, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager cette année? C'était peut-être en études Charles,
je peux commencer. Du coup, j'ai signé un master en histoire du cinéma l'année dernière, et c'était quelque chose de très théorique, et je voulais vraiment faire quelque chose de beaucoup plus pratique. Et j'ai dit, j'ai 25 ans, c'est la dernière année où je peux faire un service civique, donc c'est le moment où j'aime.
Et donc la mission de votre service civique?
En fait, je suis en service civique à Lire et Faire Lire. C'est une association dans laquelle les bénévoles de plus de 50 ans vont lire à des enfants dans les écoles, dans des structures. Dans des structures où il y a des enfants. Et moi, je fais un... En fait, c'est les 25 ans de l'association cette année. et je fais un documentaire sur l'association et plus particulièrement sur les spécificités de l'Ire-et-Faire-Lire en Ille-et-Vilaine, parce que c'est une association qui est sur toute la France.
Et Maïlys ?
Et du coup, de mon côté, j'ai voulu faire un service civique comme... l'année dernière, j'ai fait une alternance et j'hésitais à reprendre mes études directement pour faire un master l'année d'après. Et donc, je me suis dit, non, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et donc, j'ai décidé de m'investir en tant que volontaire donc à la Ligue. Voilà.
Et au niveau la rémunération, tout ça, est-ce que c'est pour vous, c'est acceptable ou pas? Sur les côtés positifs et négatifs.
C'est pas une rémunération.
C'est une indemnisation.
Une indemnité. C'est très important. Ouais, c'est pas un contrat de travail. Hein.
D'accord. Mélisse, Charles?
En soi, c'est pas énorme, mais c'est que 24 heures par semaine. Si c'est difficile de vivre avec ça, on peut toujours travailler à côté. Ça représente pas énormément d'heures sur la semaine, ça.
D'accord. Parce que ça, on peut l'expliquer aussi, c'est que le service civique, il y a un éventail d'heures, ça peut aller de 18, 16 heures jusqu'à 35 heures, c'est ça?
On est sur une moyenne de 24 heures. En tout cas, à la Ligue de l'enseignement, on est sur une moyenne de 24 heures. Ça peut être un peu plus. Ça peut être moins si le jeune est en situation de handicap. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'indemnité reste la même. Sauf cas, bénéficiaire du RSA, etc. Enfin. Voilà, mais sinon l'indemnité reste la même, oui.
C'est vrai que cette question d'indemnité, c'est par rapport au coût de la vie, c'est quand même une thématique très importante pour l'engagement des jeunes. Il faut le souligner d'ailleurs. Il me semble il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui couplent les deux.
Oui, alors ça leur permet également de faire un peu le point sur leurs études. Il y en a qui font une coupure parce qu'ils savent pas trop s'ils sont dans la bonne filière. D'autres, ça permet de confirmer un projet, mais l'idée, c'est pas forcément l'emploi après. Ça peut être aussi, ne serait-ce que trouver sa voie, ou même ça peut être se resociabiliser. Faut voir qu'il y a il y a des profils qui sont très différents, des objectifs qui sont très différents également. Et l'idée, c'est pas de pallier à un salaire. C'est pas le fait d'avoir un salaire, c'est d'avoir une indemnité par rapport au temps qu'on donne pour les autres.
Je vois acquiescer Charles. Votre service civique se termine quand d'ailleurs?
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, donc c'est l'époque du bilan. Vous avez retenu quoi lors de votre service civique?
Vaste question. Surtout comment marche une association, parce que je suis un monde que je connaissais pas du tout et c'était vraiment une occasion de le découvrir et beaucoup appris comment ça marche, les valeurs qu'il y a derrière et moi je pense globalement tout ce qui tourne autour du milieu associatif.
Et donc, vous étiez avec des quinquagénaires, c'est un peu intergénérationnel. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espace où on mixe un petit peu les générations. Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé très bien. C'est une des valeurs, de toute façon, de l'association, le lien intergénérationnel. Et du coup, j'étais amené à en côtoyer beaucoup, beaucoup. Et ça se passe très bien. Après, ça dépend des profils. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, ça s'est très bien passé. Et voilà.
Et la suite, alors? Après votre service civique?
Je sais pas encore. Je vais y réfléchir. Ça me permet d'avoir une expérience en plus.
Vous allez rester dans le cinéma alors pour le coup, non?
Ah, je sais pas.
Vous savez pas.
Ça m'a ouvert beaucoup de questionnements le milieu associatif et ça me parle beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup de réflexions à faire là-dessus.
On se tourne du coup sur Maïlys. Idem, votre service civique qui se termine quand?
Malheureusement, ce soir. Je vais reprendre du coup mes études sur un master en stratégie et production événementielle et donc dont j'ai pu aussi côtoyer lors de ma mission faire justement l'exposition photo à hauteur d'engagement avec les volontaires que j'ai pu suivre durant mes 9 mois de mission donc reprendre mes études en alternance.
D'ailleurs, arrêtons-nous un petit peu sur cette exposition qui est derrière vous, non, devant nous. Alors, est-ce qu'on peut avoir en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Qu'est-ce qu'on peut retrouver au couvent des Jacobins là aujourd'hui?
Ça va être 9 portraits photos de volontaires où justement on a travaillé avec une association aussi affiliée, l'atelier des clics. Donc, je remercie aussi Dimitri. D'avoir travaillé ensemble, c'était super. Et aussi, merci beaucoup à la Ligue de l'Enseignement de m'avoir fait confiance durant toute cette mission. Ça m'a beaucoup apporté. Vraiment, enfin, les valeurs de la Ligue sont très fortes. Et donc, ça m'a permis aussi de toucher aussi au monde associatif. C'est vraiment, c'est plus qu'une mission, je dirais. Enfin, c'est vraiment, vraiment un engagement citoyen et vraiment tout le monde devrait le faire parce que les valeurs sont très prenantes et c'est super. Ouais.
Donc là, on parle beaucoup de ce que ça vous a apporté à vous, mais au niveau des entreprises, qu'est-ce que ça apporte de prendre des services civiques vraiment?
Alors du coup, ce sont pas des entreprises,
allez, oui,
ce
pardon,
sont des associations oui, ou des collectivités. En fait, ce que ça apporte, ça apporte de la fraîcheur, un regard neuf, de nouvelles idées. Et pour les associations ou les d'autres types de structures, c'est le fait de transmettre aussi, de faire découvrir aussi le monde associatif aux plus jeunes. Parce qu'on peut s'engager en mission de service civique, mais c'est pas l'engagement ne s'arrête pas là. Après, on peut faire aussi autre chose. Donc, ça leur permet de découvrir tout ça.
Et vous prenez aussi du coup la mixité sociale, c'est un des objectifs du service civique. Comment c'est appliqué au quotidien?
La mixité sociale, déjà, lorsque il y a un volontaire, lorsqu'il y a un jeune qui postule sur une mission, on regarde pas en fait de quel milieu il est, on regarde pas. Ses origines ou sa religion, etc. Donc, comme on disait, on insiste vraiment sur la motivation du jeune. Et la mixité, elle va être sociale, mais pas que. C'est-à-dire que le jeune va rencontrer les adhérents. Donc, ça peut être des parents, des enfants, des ados, des personnes âgées. Il va rencontrer des bénévoles, des salariés, des directeurs d'associations. Et tout ça, en fait, c'est super, super enrichissant.
Eh bien, on était très ravis de vous écouter. Et c'était, comme vous l'avez dit, très rafraîchissant. On va poursuivre ces dialogues en parlant de gouvernance et notamment de gouvernance par les jeunes. Dans quelques instants, on va faire une petite pause musicale. J'ai envie de laisser la parole pour terminer à Charles et à Maëlys. Si allez chacun trois mots pour définir votre service civique. Maëlys, vous êtes dans l'événementiel, ça devrait être facile. Charles, pour débuter.
C'est plus dur.
C'est plus dur. Maëlys.
Je dirais qu'en trois mots, c'est très court pour représenter tout ce que ça m'a apporté. Enfin, c'est, je dirais que c'est, enfin, ça va vraiment m'apporter aussi pour plus tard. Comment c'est beaucoup plus qu'une mission. Enfin, c'est vraiment des valeurs que porte le service civique et aussi justement la Ligue de l'Enseignement qui sont fortes et que je vais garder tout le long de ma carrière et voilà.
De l'émotion là.
Ouais, carrément.
Et Charles.
J'en ai deux qui me viennent en tête. Il y a intégration, parce que on a un petit peu parlé, tu l'as dit, Suzanne, mais on était vraiment complètement intégrés. On avait vraiment l'impression de faire partie de l'équipe et ça, c'était génial. Et les valeurs de la Ligue d'Enseignement, et enfin, c'était super important. Et, du coup, on s'y retrouvait beaucoup.
Et là, merci à vous, Charles, Maëlys et Suzanne Desplanques. Bonne continuation, alors.
Merci.
On va faire une petite pause musicale et on va retrouver de nouveaux invités. Dans quelques instants, on va écouter Femi Cuti.
La jeunesse
et l'engagement.
Une émission avec la Ligue de l'Enseignement.
Pour s'interroger sur l'investissement des jeunes dans les associations à l'heure actuelle.
Allez, de retour au couvent des Jacobins, sur le congrès de la Ligue de l'Enseignement à Rennes. Engagement ponctuel, bénévole, militant, volontaire. Aujourd'hui, les jeunes s'investissent, mais à leur manière. La question, c'est est-ce que les associations sont prêtes à les accueillir? On en parle avec Éléonore Tranchant, responsable du pôle engagement à la Ligue de l'Enseignement, et Arthur Malonska, j'espère que je prononce
Maslonka.
Bien. Maslonka.
Le S avant le L, ouais. C'est pas grave.
J'aurais dû me briefer avec vous avant d'ouvrir les micros. Et donc, vous êtes jeune élu au conseil d'administration national. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, pour vous interroger, je suis en compagnie de Carla Cosquier, élève et étudiante en deuxième année.
Radiolette.
Ah, ça l'a surpris. Élève et donc étudiante en deuxième année à Sciences Po à Rennes. Bonjour également.
Bonjour.
Alors, est-ce que les associations à l'heure actuelle savent encore parler aux jeunes? Je me tourne vers vous deux. Ou faut-il revoir nos façons de faire, Éléonore, d'ailleurs, pour commencer?
Eh ben déjà, bonjour à tous les deux. Je pense que aujourd'hui, les associations, elles doivent nécessairement s'adapter pour pouvoir accueillir aussi les nouvelles formes d'engagement. On sait qu'il y a pas mal de mutations dans la société évolue, les modes de vie évoluent, et donc les manières de s'engager en parallèle de ça également évoluent, et donc il faut que les associations puissent accueillir ces nouvelles envies de s'engager. Donc souvent on parle de génération zapping, on dit que l'engagement en miroir de ça se fait en zapping, et pour ma part je trouve ça un peu dommage parce que ça a une connotation très pessimiste, alors que je me dis qu'en fait il faut qu'on puisse justement accueillir toutes les formes d'engagement. Dès qu'il y a une envie de s'engager, bah, je trouve que c'est un bel élan qu'il faut pouvoir accueillir et accompagner, peu importe qu'il soit de courte durée, de moyenne durée, qu'il dure un an, deux ans, cinq ans ou une journée. C'est cette énergie et cette volonté de faire quelque chose pour les autres et pour la société qu'il faut pouvoir accueillir et donc adapter nos modes d'accueil.
Après, ça peut être un peu cliché de dire que les jeunes sont un peu dans le zapping, puisque ça dépend aussi de notre parcours de vie. Si on est jeune parent, par exemple, on va avoir beaucoup moins de temps à s'investir dans une association. Donc après, ça dépend aussi, c'est multifactoriel pour s'investir concrètement.
Oui, c'est ça. Y a plein de formes, plein de manières de s'engager et plein d'individus. Et en même temps, on a des collectifs. Et donc, il faut pouvoir faire ce lien entre collectif et individu sans pour autant opposer l'un à l'autre.
Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent faire que certains jeunes sont freinés à franchir la porte d'une association?
Déjà, la connaissance des associations. Donc, comment, sur mon territoire, je connais les associations? Déjà, en fait, il y a déjà une première barrière, c'est celle de je sais pas que ça existe, en fait. Je sais pas que je peux donner de mon temps. Donc, c'est comment aller à la rencontre des jeunes pour faire découvrir le milieu associatif. Ensuite, il y a comment on lève les freins psychologiques, peut-être des difficultés de mobilité. Donc, aussi de réfléchir à comment on peut permettre à des jeunes de dire, bah oui, t'es légitime, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage de connaissances ou de compétences. Nous, on est là pour accueillir justement ta volonté de t'engager et tu vas développer aussi des compétences, tu vas apprendre aux côtés des autres. C'est d'ailleurs ça l'éduc pop, Suzanne le disait bien tout à l'heure, c'était l'idée que chacun avait quelque chose à apporter à l'autre. Et donc, c'est aussi cette idée de se dire, bah oui, il faut qu'on puisse s'adapter en fonction aussi des réalités de vie des uns et des autres.
Arthur, d'ailleurs, ça me fait penser, que j'ai envie de vous poser cette question-là. Éducation populaire, c'est vrai que c'est un thème fort qui a beaucoup de décennies derrière lui, mais là, en 2025, et par rapport à, aux responsabilités que vous avez prises, vous le définissez, vous mettrez quoi comme définition sur cette expression?
Sur l'éducation populaire. Personnellement, et je tiens quand même à rappeler que il n'existe pas une définition arrêtée sur le terme éducation populaire. Et c'est vrai qu'on l'utilise, c'est un petit peu un terme valise qu'on utilise beaucoup. Et la Ligue, on se définit d'ailleurs comme un mouvement laïque de l'éducation populaire, et c'est pour ça que c'est intéressant de définir ce que c'est. Pour moi, parce que c'est une définition personnelle, l'éducation populaire, c'est la possibilité d'apprendre partout, tout le temps, avec ses pairs, en dehors des chemins académiques. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs à la Ligue de l'enseignement.
Je trouve que cette définition est pragmatique et concise. L'engagement, est-ce qu'il doit être forcément long et régulier à l'heure actuelle ou pas du tout? C'est fini, ça?
Non, mais je rejoins ce que disait Éléonore en introduction, et c'est quelque chose que j'aime répéter. Les jeunes s'engagent. Les jeunes s'engagent autant qu'avant. J'ai même envie d'être un petit peu ambitieux en disant que les jeunes s'engagent peut-être davantage qu'avant. Parce qu'il y a tout un travail, il y a toute une possibilité aujourd'hui pour les jeunes de s'engager dans tous les dispositifs qui sont proposés. Faut-il encore communiquer dessus? Faut-il encore accueillir les jeunes convenablement? Et pour ça, je pense que les associations doivent peut-être remettre en question certaines pratiques. Éléonore en parlait sur les différents temps de la vie. Je pense que si on s'engage 15 jours, c'est comme si on s'engageait pendant deux ans. C'est pas la durée qui compte, c'est avoir eu la volonté de s'engager. Et parfois, on s'engage même sans réaliser qu'on est en train de s'engager. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, selon moi.
Et est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, pour des étudiants, des jeunes actifs, que ça soit de s'engager, mais pas forcément sur une semaine complète, d'avoir, par exemple, une fois dans la semaine ou des missions vraiment très, très ponctuelles?
Oui. Alors moi, je suis originaire du Pas-de-Calais. Et je vais prendre un exemple très concret d'une association arageoise qui s'appelle La Brique, qui est une association qui milite pour pour créer du lien entre la société et les sans-abri à Arras. Et j'y suis une fois, un soir par semaine, finalement, où on monte un stand avec un tiers-lieu qui est notre partenaire et on discute simplement une fois par semaine. Et c'est un engagement ponctuel, mais dans la durée, mais une fois par semaine. Donc, c'est possible.
Alors Arthur, vous êtes élu au CA d'une grande asso, ça prend forcément du temps. Là, vous nous avez dit, vous avez aussi des activités dans d'associations différentes, plus sur le terrain. Forcément, faut s'organiser, c'est un planning compliqué.
Oui, c'est un planning compliqué. Moi, ça fait seulement un an que je suis élu au conseil d'administration nationale. Ça prend du temps. Mais on donne le temps qu'on a envie de donner aussi à la délégation qu'on occupe. Moi, j'ai, pour parler un petit peu d'engagement et des jeunesses, je suis tombé dedans dans l'engagement quand j'étais encore, enfin, je suis encore jeune, mais quand j'étais un peu plus petit, et je me suis engagé en formation BAFA. J'ai passé mon BAFA avec la Ligue de l'enseignement. C'est comme ça que j'ai rencontré l'association, et je me suis engagé sans me rendre compte que j'étais en train de m'engager, puisque j'étais formé pour pouvoir, à la suite de ma formation, encadrer des mineurs et véhiculer les valeurs qui sont portées par le projet politique de la Ligue de l'enseignement. Et j'ai réalisé tardivement que s'engager, c'était accepter qu'un individu pouvait avoir un impact positif sur un collectif sans même réaliser qu'on était en train d'avoir cet impact. Et oui, ça prend du temps.
Et Léonore, je me tourne vers vous. Selon vous, alors on a entendu Carla parler, c'est un peu comme l'intérim maintenant, j'ai l'impression, on fait des missions un petit peu à thème et sur des temps, des durées assez courtes. Comment les associations peuvent faire leur révolution, entre guillemets, puisque c'est vrai que on est plutôt sur, je prends l'exemple des radios ou des associations sportives, on va être sur des saisons, ça va être sur des temps assez longs. Se réinventer, c'est aussi compliqué avec les bénévoles, prendre du temps pour pouvoir segmenter l'activité de l'association.
Déjà, je nuancerai un peu le propos dans le sens où c'est pas non plus que cette approche un peu consumériste où je viens et je m'en vais sans intérêt ni pour la structure ni pour le projet, parce que les dernières études ont montré notamment que les jeunes avaient une volonté de vraiment être dans une structure cohérente avec la cause qui était défendue. Cette structure est dans le projet de la structure. Donc, il y a quand même une envie. C'est pas juste je viens, je donne un peu de mon temps, je m'en vais. Il y a une envie d'adhérer au projet et à la cause. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de manières de s'engager. Il y a des activités qui vont très bien pour des missions ponctuelles d'un ou deux jours. Et on pourra aussi trouver des bénévoles qui vont pouvoir rester un peu plus longtemps dans la durée pour des activités qui nécessitent justement une continuité ou pour notamment dans les conseils d'administration, etc. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une forme de volonté chez les jeunes ou les moins jeunes, mais en tout cas vers ceux qui veulent nouvellement s'engager, tout comme il n'y a pas une forme de mission dans les associations. Et donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi trouver, créer cette rencontre. Mais il faut pouvoir la faciliter aussi. Et je pense que quelque chose qui est important, c'est de repenser aussi les modalités d'accueil. Parce qu'on a parfois un entre-soi associatif qui se crée entre des bénévoles qui sont là depuis longtemps. Et donc, c'est aussi comment je vais accueillir les nouveaux, leur donner une place en fonction de ce qu'ils ont à apporter à la structure, en fonction des besoins de la structure, donc de trouver aussi ce juste milieu et de pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de faire part à ce collectif et pourquoi pas de se réinventer un peu. On fait nos séances en journée et en fait, on s'aperçoit que les jeunes, c'est compliqué pour eux, par exemple, de venir sur un séance en journée. Ben, on pourrait les décaler en soirée. Tiens, peut-être que les responsabilités, elles sont un peu trop grosses pour une personne au regard du temps disponible de cette personne. Donc, on pourrait créer des missions partagées. Il y a besoin que les jeunes, justement, c'est ce qu'on disait, ils aient aussi un retour direct de leur action. Ça, c'est une évolution des modalités d'engagement. Les plus anciens, ils n'avaient pas forcément besoin de voir le résultat de l'action directement, alors que les jeunes recherchent ça, de voir l'impact. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des urgences qui s'imposent à nous. Les urgences climatiques, les urgences sociétales. On est dans un monde où on ressent le besoin d'agir et d'avoir le résultat de l'action. Et donc, je pense qu'il faut aussi dire, on va te donner aussi un projet concret que tu vas pouvoir mener de A à Z et peut-être voir le résultat avec, évidemment, les autres bénévoles et le collectif mobilisé.
Il y a aussi la recherche de sens. Alors, quand on prend des responsabilités, des fois, ça peut être un peu compliqué de comprendre toute l'ossature. Ça met du temps, ça aussi, ça peut te décourager. Et je pense pas que les jeunes, parce que c'est vrai que tout ce qui est au niveau des responsabilités des associations, eh bien, toutes peine à trouver des gens pour essayer de pérenniser, parce que c'est ça aussi, quand il y a de la comptabilité à faire ou ce genre de choses, c'est quand même, ça demande des compétences, c'est complexe, et il faut quand même des gens qui puissent s'inscrire dans le temps, donc c'est pour ça, c'est des fois, ça peut être un peu antinomique par rapport à l'approche de l'association, notamment des jeunes et des moins jeunes.
Je suis tout à fait d'accord. Et je rejoins Éléonore sur ce qu'elle dit sur ce qu'elle disait précédemment, mais je vais nuancer ce que vous dites parce que on s'engage également en fonction des compétences que l'on a. Moi, je ne serais pas trésorier de la Ligue de l'enseignement parce que je n'ai pas une appétence particulière pour la comptabilité, pour les chiffres, et je développe surtout un engagement politique sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui sont la laïcité pour la Fédération du Nord, parce que je suis élu sur la Fédération départementale 59 et sur les jeunesses et l'engagement au centre confédéral. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut peut-être renouveler aussi les méthodes et les modes de gouvernance de nos associations. Être jeune, ça veut dire qu'on a un certain temps à accorder à l'engagement. On est étudiant ou on l'est pas, on est salarié ou on l'est pas, on est engagé ailleurs ou on ne l'est pas, on découvre l'engagement. Et c'est vrai que faire un conseil d'administration de 9h du matin à 19h le soir pour un CA national, moi je vous le dis sans secret, j'étais encore en conseil d'administration hier soir pour le centre confédéral de la Ligue de l'enseignement, ça a duré 2h30 et c'était un conseil d'administration où l'ordre du jour était léger. Quand on est jeune, ou moins jeune d'ailleurs, et qu'on arrive dans un conseil d'administration, oui, il peut y avoir de l'entre-soi, et Léonore a raison. Chaque année, on a un tiers du conseil d'administration qui est renouvelé pour des mandats de 3 ans. Ça veut dire que quand on est nouvellement élu, il y a les 2/3 du conseil d'administration qui se connaissent déjà, qui ont déjà créé des liens. C'est compliqué d'arriver. C'est compliqué de se faire une place et c'est parfois même compliqué d'être entendu. Alors, pas à la Ligue de l'enseignement. Hein. En tout cas, c'est absolument pas ce que j'ai vécu. Mais je comprends que dans certaines associations, dans certains territoires aussi, parce que on n'a pas la même possibilité de s'engager quand on est un jeune rural que quand on est un jeune étudiant qui vit à Paris ou qui vit à Lyon ou qui vit à Lille. Et ça, je pense qu'il faut retravailler les méthodes de s'engager, les modes de gouvernance. On pourrait créer des binômes d'élus sur des mandatures ou sur des délégations particulières. Faire des conseils d'administration avec des méthodes d'animation qui soient issues de ce qu'on sait faire dans l'éducation populaire, parce que dans la plupart des associations, on déroule l'ordre du jour, on a un rapport de la commission finance, on a un rapport des différents groupes nationaux de travail et on est autour de la table et on discute. Mais on pourrait créer on a fait un débat mouvant hier avec Éléonore et les jeunes. Il faut davantage susciter l'intérêt peut-être pour que les jeunes puissent s'engager un peu plus longtemps.
Alors tout à l'heure, Cléo a évoqué pour trouver des missions de service civique, c'était sur les réseaux sociaux. Ça aussi, pour certaines associations, c'est compliqué et ça prend du temps et des compétences et de l'appétence pour bien communiquer sur les réseaux, au fait du jour, que ce soit sur TikTok, Insta et Snapchat et j'en passe. Ça, est-ce que au niveau de la Ligue, vous avez des modules, ce genre de choses pour aider tout à chacun les assos qui sont demandeuses.
Effectivement, enfin les réseaux sociaux, je pense que c'est devenu un incontournable, mais c'est pas que la porte d'entrée non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et justement l'enjeu c'est aussi de recréer du lien. Enfin, en général, on s'engage au local, près de chez soi, et donc pour moi l'enjeu c'est de faire connaître les associations au local. Donc, il y a tous les ans le forum des assos, mais encore faut-il connaître ce forum des assos, y aller, etc. Et donc, je pense qu'il faudrait penser aussi des stands associatifs sur les événements culturels, sur les festivals, sur des événements des villes, pour faire connaître, pourquoi pas faire des vannes itinérants. Il y a des fois ces solutions-là qui sont proposées aussi pour faire connaître les différentes formes d'engagement en allant de village en village. Et en fait, d'aller à la rencontre des personnes pour faire connaître l'engagement. Je pense qu'on peut pas que se reposer sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous, en tout cas au Centre confédéral de la Ligue, on a une stratégie sur les réseaux sociaux. Et ensuite, c'est chaque fédération départementale qui va pouvoir mobiliser les bénévoles sur son territoire et accompagner les associations. Nous, au national, on n'a pas de bénévoles au direct au Centre confédéral.
Et si je peux me permettre de compléter ce que dit Éléonore, Ce que je disais en propos introductif, c'est que la Ligue de l'enseignement se définit comme un mouvement laïque de l'éducation populaire, mais on peut également se définir comme fédération d'associations. Parce que le découpage territorial, il est comme on l'a décrit, chaque fédération départementale, on a 102 fédérations départementales aujourd'hui. Dans chaque département de France, on a la Ligue de l'enseignement qui est implantée. Et au niveau local, on accompagne les associations qui sont affiliées à la fédération départementale de la Ligue de l'enseignement. Et on a des chargés de mission, vie fédérative, qui sont salariés de la Ligue de l'enseignement et qui doivent accompagner les associations à former les bénévoles associatifs sur la comptabilité, sur la gestion de projets, sur l'animation de conseils d'administration. On revient toujours à ce même débat, mais en tout cas, une des fonctions de la Ligue de l'enseignement, c'est d'accompagner les associations sur le territoire.
Est-ce qu'il y a aussi le fait de récompenser? Alors, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas consumérisme, mais c'est vrai que valoriser, avoir un narratif sur les personnes qui ont apporté quelque chose à l'association, ça aussi, ça peut motiver d'autres personnes à s'investir.
Ouais. Pour ma part, pendant longtemps, je crois, dans mon jeune âge lointain, j'avais vraiment du mal avec cette idée de récompense, en tout cas présentée telle qu'elle. Aujourd'hui, j'ai vraiment changé d'avis dans le sens où je pense que c'est important de valoriser l'engagement parce que il y a forcément, en fait, c'est pas une opposition de je m'engage et si je vais chercher quelque chose, c'est que c'est mal. En fait, on peut s'engager pour le bien, de manière altruiste, etc. Et pour autant, se créer un réseau d'amis, développer des compétences, pouvoir effectivement se sentir valorisé dans la société. Je pense aussi aux retraités pour qui c'est une continuité en fait de la valeur sociale de pouvoir s'engager. Et c'est pas gênant. Et donc, effectivement, je pense que de valoriser l'engagement pour des jeunes, de valoriser les compétences acquises pendant le bénévolat ou pendant une période de volontariat, ça peut aussi faciliter les ponts vers l'après, vers une expérience professionnelle. Et pour des jeunes qui n'ont pas eu accès à des études, c'est aussi une manière de dire, si, en fait, tu as des compétences et nous, association, on va être là pour les reconnaître. Parce que c'est pas parce que t'as pas un diplôme que t'as pas appris à faire de la gestion de projet, parce que ça fait 5 ans que t'en fais dans notre asso.
Justement, ce que j'allais dire, il y a pas mal de jeunes qui se sentent pas forcément légitimes d'entrer dans une association. Peut-être qu'ils ont l'impression de pas avoir assez de compétences, pas assez de choses à apporter. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer, pour tous ces jeunes-là, en quoi, avoir des jeunes dans une association, c'est bénéfique pour l'association en elle-même et donc, dans tous les cas, ils seront utiles, en fait?
C'est comme si on posait la question suivante, de point ouvrez les guillemets, est-ce que les jeunes sont utiles à la société? Fermez les guillemets. Ça peut paraître étrange comme question parce que la réponse, elle coule de source. Bien sûr que oui. Les jeunes sont utiles à la société parce qu'ils font partie intégrante de les jeunesses. Et j'en parle au pluriel d'ailleurs. Les jeunesses sont utiles à la société. C'est la même chose pour les associations. Dans un monde idéal, les associations, ce serait une représentation de ce qu'est la société. Ça ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui. On y tend en tout cas et on y espère. Et moi, je peux qu'inviter les jeunes à s'engager dans les associations. Ça, c'est une certitude. Moi, ça m'a fait grandir, mais j'ai 10 000 anecdotes à raconter, mais il faut le faire. Il faut s'engager et c'est se rendre utile. C'est se rendre utile.
On va laisser la parole à Éléonore et puis vous avez le temps de réfléchir à une petite anecdote pour la conclusion. Éléonore, vous écoute.
Juste pour rebondir sur ce que dit Arthur, je pense que c'est aussi le rôle de l'association que de former les jeunes qui vont arriver dans l'association et de se questionner, ça fait partie aussi de comment on laisse une place aux jeunes, c'est aussi comment l'association va transmettre et comment les personnes déjà en place vont transmettre. Et donc, je pense que ça fait vraiment partie aussi de cet échange et de justement cette vie associative que de dire, t'as pas forcément les compétences, mais t'as envie, viens. Et nous, en fait, il y en a qui sont déjà là depuis longtemps et on va créer cette transmission, on va l'organiser parce qu'elle se fait pas forcément de fait. Et on va créer des espaces de formation.
Alors, votre conclusion, votre anecdote pour terminer, c'est...
très rapidement, je vous l'ai dit, moi, ma porte d'entrée pour connaître l'engagement, ça a été la formation BAFA. Et j'ai été formé dans un centre de vacances de la Ligue de l'enseignement, par la Ligue de l'enseignement dans le Pas-de-Calais. Et je me suis dit, je passe mon BAFA, mais ce n'est pas seulement pour encadrer des mineurs sur un temps qui est parallèle à celui du temps scolaire. C'est pour transmettre des valeurs qui m'ont vraiment bouleversé. Et quelques années après, j'ai été diplômé quand même, et j'ai eu mon BAFA et je suis devenu animateur et je suis devenu formateur BAFA pour la Ligue de l'enseignement. Et 2 ans après ma première formation BAFA, je me suis retrouvé à être dans la posture du formateur, celui qui transmet et qui véhicule les valeurs qui sont portées par la Ligue de l'enseignement. Et je me suis revu 2 ans en arrière, je me suis dit finalement c'est l'engagement qui m'a permis ça, et la boucle est bouclée. Voilà.
Eh bien, merci Éléonore Tranchant, responsable du pôle engagement à la Ligue de l'enseignement, et Arthur Malonka, j'ai bien prononcé.
Malonka, le S se prononce toujours.
Presque.
C'était le S. Jeune élu au conseil d'administration national de la Ligue de l'enseignement. Et puis, merci Carla. On vous retrouvera dans quelques instants au micro de notre radio. On va parler dans quelques instants de la Masterclass Gouvernance, un programme interassociatif pour favoriser l'engagement des jeunes. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver nos prochains invités. Il s'agit de Curtis Harding sur votre radio. Merci.
La jeunesse et l'engagement, une émission avec la Ligue de l'enseignement pour s'interroger sur l'investissement des jeunes dans les associations à l'heure actuelle.
La gouvernance, un mot un peu sérieux, pas tant que ça pour quand on vit de l'intérieur, jeune, engagé et entouré d'assos qui font confiance. La Masterclass Gouvernance, c'est un programme interassociatif lancé par la Ligue de l'enseignement. L'objectif, former les jeunes à prendre part aux décisions. Alors avec nous pour en parler, Lola Amato, chargée de mission engagement à la Ligue de l'enseignement, et elle coordonne la Masterclass Gouvernance qui pilote le projet. Et les deux lauréats, il s'agit de Maréva Thiersin d'APF France Handicap et Florian Grilleret de la Croix-Rouge. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et pour m'accompagner à vous poser des questions, je suis accompagné donc de Camille Voléon, étudiante en journalisme à l'École supérieure de journalisme. Ça fait 2 fois journalisme à Montpellier. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors Lola, je me tourne vers vous tout d'abord. C'est quoi exactement la masterclass gouvernance et elle s'adressait à qui? Parce qu'on sait les lauréats, ils sont à côté de vous.
La masterclass gouvernance et engagement, en fait, c'est un programme interassociatif. Donc la Ligue est en fait l'une des 4 associations qui pilotent ce dispositif, aux côtés d'APF France Handicap, la Croix-Rouge française et Famille Rurale. Et elle est née en fait à la suite de réflexions autour de l'engagement jeunesse et notamment la problématique de pourquoi les jeunes ont du mal à accéder en fait aux gouvernances associatives. Et ce qui était ressorti à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, ils avaient besoin d'un petit peu d'accompagnement pour justement vaincre un peu le syndrome de l'imposteur qu'on peut ressentir et être suffisamment en fait outillé pour braver la porte des conseils d'administration. Donc la masterclass en tant que telle, elle existe depuis 7 ans et elle a beaucoup évolué. On a testé beaucoup de schémas et le plus récent, donc pour l'année 2025, en fait, c'est 6 mois de programme avec des rencontres pour une 20aine de lauréats issus de nos 4 associations. Donc des rencontres sur des week-ends et il y a un week-end par mois pendant 6 mois. Et qu'est-ce qu'on fait durant ces week-ends? On va suivre à la fois un programme de montée en compétences, notamment prendre la parole en public, par exemple, vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et on va aussi produire collectivement. Le sujet, il change chaque année. L'année dernière, par exemple, on était autour de l'éco-anxiété. On a parlé de tiers-lieux, on a parlé d'engagement jeunesse, on a fêté aussi les 10 ans de l'événement qui a donné naissance à la masterclass. Et ce sujet-là, c'est une commande des associations qui, à la fois, grâce à la masterclass, peuvent avoir aussi un avis direct de leurs jeunes. Puisque nous, en tant qu'association nationale, parfois, on a un petit peu de mal à avoir l'avis des jeunes. Et je dirais même que, pour piquer un peu, parfois, on aime bien parler à leur place.
Et pourquoi alors vous aimez bien parler à leur place ?
Non, je pense que parfois, quand on est installé... Les quatre associations sont des vieilles associations. On a de l'expérience, on a du bagage, mais... Quand on est des mouvements historiques de jeunesse, peut-être qu'on croit aussi savoir et qu'on leur demande pas assez. Alors qu'en fait, le monde, il évolue super vite, les avis évoluent super vite. Et donc, tout simplement, il faut qu'on garde cet ancrage de proximité le plus possible.
Et combien de jeunes ont pu bénéficier de ce programme ? Comment ils ont pu en bénéficier ? Et est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il faut faire partie d'un collectif en particulier ?
Alors les profils en fait des lauréats sont assez divers. On va dire que le point commun c'est d'avoir eu un premier pied en fait dans une des quatre associations. Alors concernant la ligue, là je vais faire plus un focus ligue et Mareva pourra parler d'APF et Florian de la Croix-Rouge. Nous à la ligue, avoir un premier pied, ça veut dire être bénévole dans une des fédérations, une des associations affiliées. Ça veut dire avoir été volontaire en service civique, pourquoi pas formateur BAFA. On a une petite limite d'âge. On était entre 16 et 30 ans. Pour pouvoir y rentrer et surtout avoir un intérêt de poursuivre en fait avec cette association et de vouloir pourquoi pas intégrer un CA. Alors c'est pas une cause immédiate hein, mais au moins avoir un ancrage assez fort avec l'association pour pouvoir y participer.
Mareva, donc d'APF France Handicap, prendre des responsabilités pour vous ça a coulé de source ?
Non, pas spécialement. Je sais pas si je suis assez près. Pas spécialement, parce que à la base, quand je me suis engagée à APF, je comptais pas du tout me prendre de responsabilité. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée à la mage un peu comme ça, finalement. Mais par contre, ça donne envie d'en faire plus, parce que, en tout cas, j'ai pris confiance en moi à la masterclass beaucoup plus qu'avant.
Je me tourne vers vous, Florian, également.
Au niveau de la Croix-Rouge, bon, c'est un peu le même principe. On commence au niveau local, après on a plein de dispositifs et on peut être simple bénévole. Après moi, si je prends mon propre cas, j'ai pris un poste de responsable jeunesse mais au niveau local en intérim. Et après, en fait, c'est fait naturellement une montée d'échelon jusqu'à ce que j'arrive dans l'animation de réseau au niveau de la région. Mais on essaye encore de montrer qu'on peut nous faire confiance. Chaque échelon, un peu comme les quatre associations, on rentre un peu facilement.
Moi, j'ai une question pour vous deux. Déjà, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé dans ce programme, et puis finalement, qu'est-ce que ce programme a pu vous apporter, qu'est-ce que vous vivez à travers ça.
Ce qui a pu me motiver, c'est un peu ce qu'a dit Lola tout à l'heure, c'est les apports en fait que ça peut nous apporter. Justement, moi, si je prends typiquement mon cas, quand je suis arrivé au niveau régional, au niveau Croix-Rouge, je n'avais pas forcément de bagage en termes de responsabilité, un peu de manque de confiance en moi, etc., qui a réussi à m'apporter la mage. On est là tous les deux et on se crée aussi des amis du réseau. Et c'est un programme hyper intense, certes, mais dans les deux sens, en termes d'intense au niveau fatigue, mais aussi intense au niveau émotionnel, et c'est un très bon programme, vraiment.
C'est pas trop compliqué, justement, à gérer justement la vie perso, et puis justement ce programme à côté.
Tu veux répondre ?
Alors, moi, je suis un cas un peu différent du reste, parce que je ne travaille plus en raison de mon état de santé, donc j'ai beaucoup plus de temps, et au contraire, je me suis engagée dans l'associatif pour rendre un peu à la société ce qu'elle me donne. Après, pour en revenir sur la question précédente, moi, j'y suis allée, comme je l'ai dit, un peu par hasard. Et j'étais quand même intéressée par le fait de me faire du réseau, d'apprendre des choses. Et vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Et même encore aujourd'hui, ça me donne des opportunités. On est là aujourd'hui grâce au fait qu'on a été à la MAJ. Et voilà.
Alors moi, je voulais revenir un petit peu avec vous sur... vous avez pris des responsabilités. Donc, on peut voir aussi un peu les... J'ai pas envie de dire, mais les dysfonctionnements, les choses qui peuvent être améliorées. Votre point de vue, je vous vois sourire, Florian.
mon point de vue, ça a été un peu, nous, notre question... pas dans la globalité, mais ça faisait partie d'une question qu'on a présentée au mois d'avril. Et justement, la responsabilité qu'on peut avoir,
Nous, ce qu'on appelle, en fait, c'est de nous faire un peu plus confiance en termes de responsabilité, de pas juste nous nommer et de nous ranger en mode faites des activités et on est très content de vous. Je pense que les jeunes, bah, comme disait Arthur tout à l'heure, hein, c'est comme si les jeunes étaient un problème de société, etc. Je ne suis pas forcément d'accord. On peut faire confiance aux jeunes. Le droit à l'erreur est important aussi. Et voilà, laissons les choses faire, faisons-nous confiance, et on est aussi capable de prendre des décisions, d'avoir un esprit critique, etc.
Est-ce que dans vos entourages, ça fait un petit peu boule de neige, à se dire bah tiens, vous avez pris des responsabilités, bah tiens, pourquoi pas moi ? Est-ce que ça a suscité un intérêt ?
Dans mon entourage à moi, non, pas personnellement, parce que je pense que mon entourage a déjà beaucoup à faire, mais ils sont pas dans l'associatif spécialement. Après, je sais pas, toi.
Moi, typiquement, il y a eu un petit mouvement au niveau de ma région. Après, on était en période d'élection, donc ça va se voir là au fur et à mesure du temps. Mais voilà, au niveau de mes 5 départements des Hauts-de-France, on sent qu'il y a quand même un petit mouvement qui se crée, et on a une petite, on va dire 5-6 responsables en plus que ce qu'on pouvait avoir sur le dernier mandat.
Des lauréats forcément qui vous donnent le sourire, Lola. Donc une prochaine édition, ça s'organise comment ?
Eh ben justement, pour faire suite, la MAJ, on considère à d'avis collectif, hein, les 4 associations, qu'on arrive un peu à un cycle, et c'est lié à leurs travaux de cette année. Puisque, comme le disait un petit peu Florian, on a mis un peu au fait nos 4 associations, qui étaient bien sûr totalement d'accord, et une centaine de personnes, en fait, sur la gouvernance associative. Et on les a un peu questionnés sur, en fait, est-ce que nos conseils d'administration, nos gouvernances, elles sont vraiment aussi représentatives que nos adhérents, que les publics qu'on accompagne. Et on a été un petit peu au-delà, en dépassant la question de la jeunesse, en se disant qu'en fait, peut-être que l'accessibilité des gouvernances associatives, c'est pas une question de jeunesse. C'est pas une question de j'ai peur parce que j'ai 25 ans et que je sais pas comment m'y prendre. C'est plutôt une question de j'ai besoin d'être accompagnée, mais je peux avoir aussi 40 ans en étant nouveau. Et en fait, en ce sens, l'événement a fait ressortir 10 propositions transformatrices pour nos CA, et à voir si ça va être suivi et comment ça va vivre. Et ça, c'est un travail collectif qu'on doit faire. Donc la masterclass en tant que telle, on va pas leur reproposer tout de suite en 2025-2026. On va retravailler ensemble les 4 associations. Et on a quelques pistes sans être vraiment sûr aujourd'hui, puisque pour rien vous cacher, les travaux reprennent le 19 juin. Donc, non, pas le 19 juin, parce qu'on est, c'était hier, mais plutôt le 19 juillet. Et une, par exemple, des pistes, ce serait, est-ce qu'on ferait pas plutôt une masterclass intergénérationnelle? En fait, est-ce que c'est pas vers ça qu'il faut se tourner, justement, pour lever la question de la gouvernance et de son accessibilité?
Florian?
Mais on peut aussi imaginer, je suis pas du tout dans le copil, etc. Mais moi, ce que je peux inviter, c'est au niveau déjà local, tout en restant, parce que chaque association a quand même son orientation et son propre projet associatif. Mais c'est aussi d'aller chercher des partenariats, d'aller à la rencontre aussi de l'autre, et de trouver peut-être des projets, projets d'une journée, ou peut-être des projets un peu plus longs, mais des projets concrets où on pourrait travailler ensemble. Je pense que la base aussi de notre mouvement, c'est au niveau local que ça se concrétise, et ça peut être intéressant justement de mettre à profit au niveau local des petits projets comme ça ensemble.
Lola.
Et si je puis rebondir sur ce que dit Florian, un des avantages vraiment de la masterclass, quand je vous dis que ça arrive à une fin de cycle, certes, mais par contre l'apport interassociatif, il est pas à négliger. Et là, c'est vrai qu'on est sur un programme de tête de réseau national et pas forcément d'association locale. Mais par contre, ça a été une vraie expérience pour nos 4 associations et aussi pour nous salariés, en fait, une vraie aventure humaine. Et le fait qu'on ait 4 objets d'associations un peu différents, que ce soit APF qui est plus sur de la défense des droits, la Croix-Rouge qui va être plutôt sur de la santé, du secourisme, et Famille Rurale qui est aussi dans la défense des consommateurs d'un certain type de public. Ben, en fait, on s'est rejoint sur ces questions, et ça nourrit nos réflexions.
C'est quand même des associations militantes fortes qui pallient beaucoup de choses dans notre société.
Tout à fait. Et je pense que cette thématique de renouvellement de gouvernance, c'est pas un objet propre à une association, et qu'on peut, grâce à l'interassociatif, on peut trouver des pistes de réflexion, en tout cas pour continuer à avancer.
On va faire une petite conclusion de cette émission collective, si vous voulez bien. On peut peut-être demander à nos journalistes de venir. On va partager le micro. Par rapport à ces 3 temps forts, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, on a parlé du service civique, on a parlé aussi beaucoup de gouvernance et de cette masterclass. Vous avez retenu quoi? On commence par qui? Lola?
Qu'est-ce que j'ai retenu? Alors moi je suis salariée aussi, hein, donc je suis un peu biaisée vis-à-vis d'un regard parce que je travaille au pôle engagement de la Ligue. Mais c'est ne pas sous-estimer le fait que les jeunesses s'engagent. On dit qu'elles sont plus désengagées, c'est pas vrai. Elles le font beaucoup sous des manières de formes différentes. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'engagement évolue et qu'on n'est pas encore complètement prêt à prendre en compte toutes les différences pour bien s'engager. Moi, j'ai 27 ans, je peux pas m'engager de la même manière qu'une personne qui a 67. Et ça, nos associations, elles ont ça à prendre en considération aussi.
Florian?
Sur le principe, j'aurais pas dit mieux. Si j'ai vraiment un point auquel j'insiste, c'est voilà, il y a plusieurs formes d'engagement, que ce soit d'un jour, un service civique, du volontariat, enfin voilà, plein de choses possibles. Mais c'est faites confiance aux jeunes, mais pas que. Il y a aussi le principe d'intergénérationnel, de passage de relais. Les associations, bah, elles seront encore là quand nous-mêmes on ne sera plus là forcément demain. Je le souhaite. Donc voilà, fait confiance.
Donc votre message, c'est pour les responsables des structures, des associations.
Pas que, c'est aussi les futurs jeunes ou enfin voilà, futures personnes qui s'engageront. C'est n'ayez pas peur de venir. On vous fait aussi confiance. Il y aura ce passage de relais. Ce principe peut-être de tutorat pour qu'on vous explique aussi et on vous laissera après agir pour que les associations puissent perdurer et voilà, vraiment ce principe de confiance qui est important.
Avant d'écouter nos trois stagiaires en journalisme, Areva?
Moi, juste pour compléter, on a tous commencé en partant de zéro finalement, donc qu'on soit jeune ou pas, on a tous commencé à un moment donné, on n'avait pas forcément les connaissances, les compétences et en travaillant, on y arrive tous en fait. Si on a la volonté, on y arrive.
Et trouver quelque chose qui vous correspond parce que ça existe. C'est vraiment ça. Il y a toute forme d'engagement, donc il y a forcément quelque chose qui vous correspond.
Alors, je me tourne vers Camille, Cléo et Carla. Alors, sur cette heure qu'on a appris avec la Ligue au congrès de la Ligue de l'enseignement au couvent des Jacobins, vous avez retenu quoi, les éléments forts de cette émission?
Ben, moi, ce que j'ai retenu, déjà, en tant que jeune, stagiaire à Radio Laser, mais surtout hyper, engagée dans ma vie personnelle, je trouve ça vraiment bien et je trouve que on se sent vachement représenté quand on vous écoute et quand on suit toute la conférence et c'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de choses de mis en place pour nous les jeunes. C'est bien de vous entendre parler et de voir le soutien que vous apportez justement à une jeunesse qui peut parfois se sentir un peu mise de côté dans ce genre de projet. Donc vraiment merci pour ça.
Moi, je rejoins Camille aussi là-dessus en tant que jeune étudiante. Je trouve que c'est super sympa. On n'entend pas forcément parler beaucoup à l'école, en tout cas, de tout ça, du service civique en particulier, parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser plus tard. Mais et même au niveau de la question de la légitimité dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'au sein d'une entreprise, quand on est jeune, on n'a pas forcément ce sentiment d'être légitime. Donc, je trouve que pareil, de vous entendre parler comme ça, c'est assez intéressant et très enrichissant. En tout cas, merci.
Et pour terminer, Carla?
Moi, c'est un peu pareil. C'est que je trouve que le milieu associatif, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment et qui, je trouve, peut faire un petit peu peur de l'extérieur dans le sens où, pareil, on se sent pas forcément légitime, on n'a pas forcément l'impression de pouvoir vraiment apporter quelque chose. Et je trouve ça vraiment important de continuer justement à promouvoir des événements comme ça pour montrer aux jeunes que... pour faire la promotion, en fait, des associations et montrer qu'on peut s'engager. Donc, pareil, je vous remercie tous.
Eh bien, également, je me joins à ce merci collégial. Une heure, trois temps forts et un mot qui revient toujours, c'est l'engagement. Il prend mille formes, on l'a bien compris durant cette heure. Il commence souvent par une rencontre, un déclic, une envie d'agir. Merci à toutes celles et ceux qui se sont confiés à notre micro aujourd'hui. On se retrouve très bientôt.